Chapitre 3. Le laquais, impassible au milieu de la stupeur générale, se dirigea avec une perpendicularité raide et maintenue par des efforts héroïques vers M. Desprez, qui s'était détaché du groupe. Son front moite de sueur, ses yeux troubles et sa face cramoisie attestaient de nombreuses et récentes libations. Mais il ne fléchissait pas, et son attitude respectueusement insolente n'avait rien perdu de sa correction. Mademoiselle Amine de Beauvilliers, dit M. Desprez en ayant l'air de chercher à rassembler ses souvenirs, que veut-elle me vouloir? C'est la première fois que j'entends prononcer ce nom. Mademoiselle est cependant très connue dans Paris, répondit le laquais avec un aplomb ironique. Pendant ce court intervalle, Dalberg avait plusieurs fois changé de couleur et ses traits exprimaient l'anxiété la plus profonde. Calixte, immobile et froide comme une statue, semblait ne plus appartenir à ce monde. Incertain entre la boîte et la lettre, M. Desprez se décida à rompre d'abord le cachet de cette dernière. À peine eut-il lu quelques mots, qu'à sa surprise succéda la plus vive indignation. Il lança à sa fille un regard irrité, qu'il reporta ensuite sur Dalberg, chargé du mépris le plus écrasant. La lettre, écrite d'un style qui, pour ne pas valoir celui de Madame de Sévigné, n'en produisait pas moins son effet, contenait ce qui suit. Monsieur, vous avez une fille charmante, mais qui a le défaut d'être prodigue de son effigie. Vous trouverez dans ce petit coffre une miniature qui devait être au col vol de M. Dalberg. Rendez-la de ma part à Mademoiselle Calixte, pour qu'elle la remette où je l'ai prise. Ce léger incident ne désunira pas, je l'espère, un couple si bien fait pour s'entendre. Agréez, monsieur, les compliments de votre servante, Amine de Beauvilliers, coryphée et rentière. Ne pouvant croire à tant d'audace et supposant quelque odieuse mystification, M. Desprez fit convulsivement jouer le ressort de la boîte et put se convaincre de la vérité des assertions contenues dans la lettre d'Amine. Le portrait de sa fille souriait bien, dans sa fraîcheur virginale, sur le velours rouge qui doublait la boîte. « Messieurs, s'écria l'ex-notaire d'une voix brève et saccadée, vous êtes mes anciens amis, j'ai confiance en vous. Je vous dirai tout plus tard, mais il faut que tout ceci s'explique sans témoin. Revenez demain, je serai plus calme. Aujourd'hui, je ne répondrai pas de la portée de mes expressions. Vous, Dalberg et Calix, restez. » Les amis de M. Desprez se retirèrent tout inquiets, tout émus. Que pouvait donc contenir cette lettre et cette boîte pour troubler à ce point et mettre dans une si véhémente colère un homme ordinairement d'une tranquillité et d'une douceur peut-être excessive? Le laquais les regarda sortir processionnellement, et quand ils eurent tous disparu, il s'approcha de M. Desprez et lui dit « Monsieur, il y a-t-il une réponse ?» L'ex-notaire lui montra la porte d'un geste si impérieux et si violent que le laquais, malgré son audace et sa grande taille, fit un brusque demi-tour et s'esquiva, craignant d'être jeté par la fenêtre s'il tardait une minute. M. Desprez se promena de long en large, comme s'il eût voulu laisser aux vagues folles de son indignation le temps de tomber. Puis, devenu plus calme, il tendit silencieusement la boîte à sa fille et la lettre à Dalberg. « Ma fille, dit-il après une pause, je ne vous ferai pas de reproches. Bien qu'une jeune fille ne doive pas donner même à un fiancé un gage dont vous voyez maintenant tout le danger. Votre faute est en quelque sorte excusable et vient d'une âme noble. Vous avez cru à la foi jurée, à la sainteté de l'amour. Remontez dans votre chambre, je ne vous en veux pas. Je vous plains. Quant à vous, Dalberg, qui n'avez pas craint de laisser profaner ce chaste portrait par des mains impures et de livrer l'honneur et le nom de ma fille à des rancunes de courtisanes, vous sentez que tout rapport doit être brisé désormais entre nous. Et j'espère qu'à dater de ce soir, vous nous épargnerez vos visites. » C'est en vain que Dalberg essaya de balbutier quelques explications. M. Després l'arrêta dès les premières paroles et lui dit « Ne vous aiderez pas par des mensonges inutiles. Ayez au moins le courage de votre conduite. Oh, je n'aurais vraiment pas cru cela de vous. » Et il laissa Dalberg seul dans le salon. Le pauvre jeune homme sortit morne et désespéré de cette maison où il était entré plein de projets de bonheur. Avant de s'éloigner, comme Calixte était rentré dans sa chambre, il se retourna vers la fenêtre éclairée, plus triste qu'Adam chassé du paradis terrestre, et après quelques minutes de muette contemplation, il se dirigea vers l'autre rive de la Seine, méditant toutes sortes de vengeances contre Amine et celui qui lui avait dévoilé le nom et l'adresse de Calixte, vouant aux dieux infernaux M. Després, qui ne voulait pas reconnaître son innocence, et dans un état d'exaspération facile à s'imaginer, car au fond de l'âme, il adorait sa cousine et avait un cœur d'or, malgré ses rodomontades de lionnerie. Le grand laquais, dont le cerveau obscurcissait de plus en plus sous les fumées du vin, faisait des efforts incroyables pour rejoindre la rue Joubert et aller rendre compte à sa maîtresse du succès de sa mission. Certes, Georges était prodigieusement ivrogne, il faut l'avouer. Mais il avait une telle habitude de la boisson qu'il ne s'enivrait pas, visiblement du moins, mais ce soir-là, il trébuchait et battait les murs. En sortant de la maison, chargé de la boîte et de la lettre, il avait rencontré le cocher, le palefrenier de Florence, événement qui parut mériter d'être célébré par quelques libations. Les bouteilles avaient succédé aux bouteilles, le vin blanc au rouge, le cachet vert au cachet noir, le rhum à l'eau de vie et les trois gredins buvaient toujours. Les deux domestiques de Florence ne se laissaient pas d'offrir de verser et de payer. Georges les déclarait des amis incomparables et, quand il se levait pour s'en aller, l'apparition d'une nouvelle liqueur le forçait à se rasseoir. Cette violence était douce au cœur de Georges. Cependant, on le régalait avec un tel acharnement qu'il conçut quelques vagues soupçons qu'on voulait le griser. Cette idée lui sembla puérile et saugrenue, et venant de gens qui ne l'appréciaient pas à sa juste valeur. Néanmoins, il se tint sur ses gardes et obligea ses compagnons à lui rendre exactement ses rasades. Et de peur de quelques mauvais tours, il boutonna son habit après avoir serré la boîte et la lettre dans la poche de côté. Au bout de 2 heures, le cocher et le palefrenier dormaient l'un sur la table, l'autre dessous. Georges, grâce à l'épaisseur de son crâne et à la vigueur de son estomac, avait pu s'acquitter de sa commission et faire dans le salon de M. Després cette triomphante apparition que vous savez. « Eh bien, Georges, » dit Amine à son laquais, qui, moyennant une séance d'un quart d'heure sous le robinet de la pompe, avait retrouvé tout son sang-froid, « rends-moi compte de ton expédition. » Mademoiselle, ils étaient là, une demi-douzaine de vieux, les uns décorés, les autres décorés, oh, tous décorés, quoi. Linge blanc, habit noir, des gens respectables, enfin, et qui couvraient les yeux comme des portes cochères. Mon physique les émotionnait, ces bourgeois. Mais quand j'ai donné la boîte et la lettre et dit que je venais de votre part, oh, Monsieur Dalberg est devenu rouge comme un homard. La demoiselle a pâli et le père a voulu jeter par la fenêtre, mais me serait mis en travers. Un laquais, genre éduc au service de mademoiselle Amine, ça se casse pas comme ça. » Et Georges fit un dandinement plein de fatuité. « Tu es la brute la plus intelligente qu'on puisse voir, dit Amine, en jetant un double louis à Georges. Allez, voilà pour boire à ma santé. Après-demain, car tu me parais suffisamment gris comme cela, rentre dans ton chenil. Le cocher et le palefrenier de Florence furent ramenés ivres morts à l'hôtel. Mais cette escapade ne leur valut aucune réprimande de la part de leur maîtresse, ordinairement très sévère sur les délits de ce genre, bien qu'il eût été obligé, ayant à sortir, d'envoyer chercher une voiture de place. Pour que rien ne manque à la relation des événements de cette soirée, nous dirons que le joueur d'orgue vint donner sa sérénade habituelle sous la fenêtre de Calixte et qu'un gros sou enveloppé de papier roula devant lui sur le pavé comme à l'ordinaire. À qui pouvaient s'adresser ces lettres blanches? Et quel était donc l'intérêt de cette correspondance que les préoccupations les plus tristes, les chagrins les plus vifs n'interrompaient même pas? Comment s'était-elle établie et continuée? Ce n'était pas à d'Albert que Calixte écrivait, et des lettres de parentes ou d'amis n'eussent pas exigé ces précautions mystérieuses. La supposition d'un autre amant ne pouvait s'admettre. Il suffisait d'avoir vu une fois Calixte près d'Henri pour la rejeter. Les existences les plus claires ont leur coin ténébreux, les poèmes les plus intelligibles, leur passage indéchiffrable. « Quelle mine de déterré vous avez !» dit Rudolf Adalberg, qu'il rencontra sous un bec de gaz du boulevard des Italiens, fumant un cigare éteint depuis longtemps. Ben, « vous voilà bien tous, vous autres jeunes gens. Faut s'amuser, non pas se tuer. Vous buvez sans méthode, vous mangez sans philosophie, vous mélangez des excès qui ne s'accordent pas. D'où sortez-vous ? » ?»« Mon cher Rudolf, je n'ai manqué en rien à l'hygiène, quoique j'aie la figure toute bouleversée, que je sois de fort mauvaise humeur. Vous avez perdu ? Dit Rodolphe. Vous n'êtes pas assez froid devant les cartes. Oh non, je n'ai pas perdu, au jeu du moins. Quelques spéculations qui n'a pas tourné comme vous l'espériez ? Non, je n'ai pas de capitaux engagés. Alors, c'est donc quelque peine morale, quelque désespoir amoureux. Une jolie tigresse s'amuse à se repasser les griffes sur votre cœur. Mais Rudolf, non, ne plaisantez pas. Je suis sérieusement affecté. J'ai des idées noires, je me sens un découragement mortel. La vie m'est à charge. Diable, n'allez pas devenir un poète romantique. Vos doléances puent l'élégie de beaucoup de kilomètres à la ronde. Vous êtes cruel, Rudolf. Laissez votre ricanement pour quelques minutes. Bien, me voilà aussi grave que possible. Et puisque vous avez un véritable chagrin, j'y compatis de tout mon cœur. De quoi s'agit-il? Vous ne raillerez pas, reprit Dalberg avec un air de doute. Non, non, pas le moins du monde. Commencez votre complainte. Amine m'a joué un tour abominable. Je la croyais très bien disposée à votre endroit. Vous savez, le portrait qu'elle m'a dérobé au souper pendant que je dormais. Elle l'a envoyé, accompagné de la lettre la plus scélérate du monde, au père du modèle. Ben oui, lequel a dû prendre une idée déplorable de vos mœurs et vous mettre très proprement à la porte de son domicile patriarcal. Mais qui a pu dire à cette enragée créature le nom de Calixte et l'adresse de M. Després ? C'est bien difficile, vous êtes d'une ingénuité rare. Mais depuis le jour du steeple-chaise, Amine a pour vous un caprice marqué. Elle vous a fait à table des œillades terribles, malgré la présence réfrigérante de M. de Marcy. Vous lui répondez que mollement. Le médaillon vous révélait amoureux. Il a fallu que vous faire suivre deux ou trois jours par un simple bouchard pour savoir que vous alliez très souvent rue de l'Abbaye. Et dans cette rue, sans la vouloir calomnier. Il doit bien y avoir un portier bavard, et même deux. C'est limpide comme du kirsch, personne ne vous a trahi que vous-même. » Ce que disait Rudolf était tellement vraisemblable que les vagues soupçons qui avaient pu traverser l'esprit de Dalberg s'évanouirent tout à fait. « Yamina a sans doute posé au rachat du portrait des conditions exorbitantes. » « Pas trop, en vérité, mais j'étais ensorcelé et j'aurais cru commettre un crime. »« Ben, vous avez fait la bégueule et joué au paletot la scène de Joseph. » « Oui, à peu près. Ben, Amine est dans son droit, elle se venge de vos dédains. Ce dépit prouve de l'amour. Si vous m'aviez consulté, je ne vous aurais pas laissé faire cette sottise-là. L'orgueil des femmes est implacable. » Oui, mais me voilà renvoyé par M. Després, haï par Calixte. Et tout cela pour avoir dormi sur une causeuse, au lieu de danser, comme c'était votre devoir. Oui, riez, mais je suis très malheureux. Par votre faute. Fallait-il mettre tant de mystère à la chose la plus naturelle du monde? À faire la cour à une jeune fille pour le bon motif, comme disent les cuisinières. Pourquoi, diable, lorsque vous faites le mal à la clarté du soleil, vous cachez-vous pour commettre une action vertueuse? Si vous aviez dit que vous étiez un jeune fiancé, l'on aurait respecté votre candeur. Les femmes auraient gardé leur doux regard et leur frais sourire pour des mortels libres de tout engagement. Amine aurait porté sa bienveillance ailleurs et rien de tout cela ne serait arrivé. On ne vient pas faire de garçon quand on est un homme presque marié. » Dalberg, qui sentait la vérité de ce raisonnement, baissa la tête. « Alors, il n'y a pas de fond de quoi se désoler. Vous vous marierez plus tard avec une autre. Il faut vous garder cette ressource pour le jour où vous serez ruiné. » « Mais Calix ne veut pas être remplacé. Oh, je ne veux pas vous contrarier là-dessus. » Mais permettez-moi de vous le dire, Amine est aussi jolie, pour le moins que Calixte, à la vertu près. Et Florence est plus belle. Celle-là encore vous regarde de trois lieues d'ici, comme disait le marquis Turlupin de Molière. Vous avez de quoi vous consoler. Mais je ne me consolerai jamais. Le beau malheur, après tout, eh bien, vous ne serez pas obligé de rentrer tous les soirs à 9 heures et de rendre compte de vos feuilles de papier à lettres. Vous n'aurez pas 40 ans de grands gaillards moustachus et barbus qui vous diront « papa » et vous feront paraître sexagénaire. L'obésité ne vous viendra que 10 ans plus tard. Vous pourrez voltiger de la brune à la blonde et lorgner les femmes au spectacle sans vous faire passer le bras jusqu'au sang. » Dans un autre moment, ces consolations sarcastiques eussent éveillé chez Dalberg ce sentiment de vanité et cette crainte du ridicule si puissant pour lui. Il eut fait un effort pour rire du tableau grotesque esquissé par Rudolf, et il voulut y ajouter lui-même quelques traits. Mais dans ce moment, sa douleur, réelle et profonde, avait fait disparaître toute son affectation de rouerie. Cette idée bourgeoise de voir rompre son mariage avec une jeune fille, pure et charmante, qu'il aimait depuis l'enfance, lui navrait le cœur. Rudolf vit qu'il fallait changer de ton et se fit donner, par le trop naïf d'Alberg, tous les détails possibles sur le caractère de Calixte et sur celui de M. Després. Henri, mis en confiance, raconta de point en point l'histoire de ses amours à laquelle Rudolf eut l'air de s'intéresser vivement. Il déroula devant ce roué le chaste et mystérieux poème du premier amour. Rudolf fut surpris de ses trésors inconnus, de ses richesses immenses qu'il ne soupçonnait même pas. Dalberg le dominait complètement par cette éloquence vraie, naturelle et jaillissant du cœur comme une source vive. Jamais Rudolf n'avait entrevu, même en rêve, ces paradis d'azur, ces campagnes féeriques, ces éblouissantes perspectives de l'amour pur. Cet homme ébloui, fasciné, comprit que lui, le roué, l'usé, le blasé, n'avait jamais vécu. De la femme, il ne connaissait que le spectre, de l'amour que l'ombre. Il se sentit pris d'une amère tristesse en écoutant les strophes désordonnées de cet homme de passion. Il devint envieux de Dalberg comme le nuclet du sultan, le critique du poète, la vieille femme de la jeune fille et le pauvre du riche. « Comment se fait-il, se disait Rudolphe, que les plus charmants visages et les plus divins corps, passant devant mes yeux à travers un ruissellement de pierreries, d'or et de fleurs, ne m'aient jamais produit l'impression pareille ? Puisqu'il en est ainsi et que vous ne pouvez vivre séparé de Calixte, bon, mais j'irai voir le papa. Le papa des prés, il m'a pas l'air, d'après ce que vous me dites, d'un gaillard de trop farouche approche. Mais je lui raconterai l'affaire comme elle s'est passée. Je jetterai une gaze sur les détails pour ne pas faire rougir ses cheveux gris et peut-être les choses s'arrangeront-elles mieux que vous ne le pensez. Maintenant, il est près de 2 heures du matin et nous avons parcouru 200 fois l'espace qui sépare le café de Paris de la rue du Mont-Blanc. Je suis pas amoureux comme vous et quelques heures d'horizontalité ne me feraient pas de mal. » Peu après la scène que nous avons esquissée au commencement de ce chapitre, M. Després, inquiet de la santé de sa fille, entra dans la chambre de Calixte, qu'il trouva calme et pâle, les yeux fixés sur le bouquet de pavots et de bleuets, signé du nom caché par le cadre dont il a été parlé au début de cette histoire. Il lui prit la main et lui dit d'une voix affectueuse, « Oh, ne te chagrine pas trop, ma pauvre petite, et tâche de l'oublier. Jamais je n'oublierai Henri, et jamais je n'aurai d'autre époux, » répondit Calixte en fixant sur son père son regard ferme et bleu, plein d'une décision inébranlable. « Mon enfant, je ne suis pas un père de mélodrame, je ne te ferai pas enfermer dans un couvent. » Et j'ai eu l'envie d'employer envers toi des moyens violents, mais la conduite de Dalberg est celle d'un misérable. Il est indigne de toi. » Non, mon père. Henri n'a pas cessé d'être digne de votre fille. Je crois en son amour comme en Dieu. S'il ne m'aimait plus, mon âme le sentirait. Quelque chose se briserait en moi. Je n'étais averti par rien. La figure de la jeune fille rayonnait de la plus pure confiance et avait une expression sublime. Et ce médaillon renvoyé par la plus vile créature à qui Dalberg t'avait sacrifié? Mais il a été perdu ou volé. Quel aveuglement! Mais le trouble d'Henri l'accusait assez. Comment se refuser à une telle évidence? Mon père, je ne vous obéirai en rien. Vous m'avez défendu tout à l'heure de voir Henri. Je me conformerai à vos ordres. Vous me dites qu'il est coupable, je suis sûr du contraire. Vous l'avez trouvé pendant 10 ans honnête, pur et loyal. Il est toujours ainsi, et vous reviendrez bientôt à votre premier jugement. Je ne sais rien de la vie hors l'amour, je n'ai pas l'expérience, mais à son défaut, la foi m'éclaire. Cher enfant, je voudrais bien partager ton illusion. Mais vous autres qui vivez à l'écart dans de petites chambres blanches, et ne voyez le fiancé qu'un bouquet à la main, un genou en terre et fraîchement frisé, oh, vous vous faites d'étranges chimères sur les choses du monde. Vous croyez que tout est rose et bleu de ciel, qu'il n'y a point de loup dans les bergeries. Hélas, cher enfant, l'idéal est souvent menteur. Et si tu savais tout ce que Dalberg fait à Paris? Si tu pouvais le suivre, ayant au doigt l'anneau qui rend invisible, oh, tu changerais peut-être de langage. » Un sourire presque imperceptible voltigea sur les lèvres de Calixte à ces paroles de M. Després, mais ce ne fut qu'un éclair. « Tu sens bien, » dit l'ex-notaire en mettant un baiser sur le front de sa fille, « que je pardonnerais tout à un jeune homme, duel, dette, folie de toutes sortes, excepté d'avoir profané le portrait de mon enfant. » En disant ces mots, Il prit sur la table le bourgeoir d'argent qu'il y avait laissé et se retira chez lui, maudissant Henri et surtout Mademoiselle Amine de Beauvilliers. La douleur d'Henri, quelque grande qu'elle fût au moment de la catastrophe, s'était encore augmentée au bout de quelques jours par la privation de voir Calixte. Le retranchement de cette heure passée chaque soir près du métier à broder d'une jeune fille avec laquelle il n'échangeait pas 20 paroles faisait dans sa journée un vide immense qu'il ne pouvait remplir. Sa vie n'avait plus de but. Attendre le moment de sa visite chez Calixte, y rêver lorsqu'elle était terminée, tel avait été jusqu'alors l'emploi de son temps. Il se sentit misérablement désœuvré. Il lui sembla qu'une vaste solitude s'était faite autour de lui, que le soleil était noir et le monde frappé de mort. Tout cela parce qu'il n'allait plus rue de l'Abbaye, dans une maison triste et froide, chez un notaire ennuyeux. Faisant taire son orgueil, car l'amour sincère est humble, il aurait employé tous les moyens possibles pour s'excuser et rentrer en grâce auprès de M. Després, mais ses lettres étaient restées sans réponse. Elles contenaient pourtant les justifications les plus convaincantes et les plus explicites. Des personnes tierces, députées dans des idées conciliatrices, n'avaient pas obtenu plus de succès. M. Després ne voulait rien entendre. C'était un de ces hommes très doux et très opiniâtres qui, lorsqu'ils ont pris une fois une résolution, y tiennent excessivement, sans doute à cause de la rareté du fait. D'ailleurs, il avait été blessé par Dalberg à son endroit le plus sensible, dans son amour pour sa fille. Puis il s'était confié aveuglément à son honneur, puis il s'était indigné de sa trahison. En outre, comme tous les gens faibles, la peur de paraître manquer de caractère le rendait entêté. Il faut dire aussi qu'il avait pris sous-main des informations dont le résultat ne pouvait être qu'être défavorable à Dalberg. Il savait maintenant qu'il fréquentait les coulisses, jouait, s'enivrait et vivait dans une société d'hommes de plaisir et de femmes d'une moralité au moins légère. Tout cela n'est pas trop propre à bien poser un jeune homme dans l'esprit d'un ex-notaire, et M. Després s'estimait heureux que l'esclandre causé par Amine fût arrivé à temps pour empêcher le mariage. « Qui aurait dit cela, disait M. Després, avoir cette physionomie honnête, ces manières timides, ce ton doux et mesuré, cet air de jeune fille déguisée en garçon. Ce Dalberg est un drôle de compliqué. À la débauche, il joue à l'hypocrisie. Il reluquait la dot pour payer des parures à ses demoiselles. Joli calcul. S'il remettait les pieds ici, je le recevrais de la belle manière. » Rudolf, faisant semblant de compatir au désespoir de Dalberg, s'était rendu chez M. Després pour plaider la cause de son ami. Il avait plaidé, en effet, mais de manière à corroborer M. Després dans son opinion. Henri, selon Rudolf, n'avait rien de grave à se reprocher. C'était un garçon aimable, beau joueur, convive joyeux, aimant les chevaux et les femmes, chose bien naturelle à son âge. Quant à l'affaire du médaillon, il y voyait, lui, Rodolphe, plus étourderie que noirceur. C'était un souper au cabaret avec des lorettes et des figurantes. L'abandon du portrait pouvait se mettre sur le compte du vin, car Henri se grisait quelquefois. Il était ivre ce soir-là comme un membre du Parlement. Il avait sans doute craint d'exciter la jalousie ou la colère d'Amine, personne très violente qui se croyait avoir des droits sur son cœur. Dans tout cela, il n'y avait pas de quoi fouetter Anton, et M. Després se montrait un père vraiment rébarbatif. De pareilles excuses ne persuadaient nullement le brave M. Després, qui persistait à regarder Dalberg comme un drôle indigne de pitié et de pardon. Aussi, Rudolf, lorsqu'il vint rendre compte de sa mission à Dalberg, sans lui enlever tout espoir, lui fit-il comprendre que M. Després serait long et difficile à ramener, et qu'il faudrait de nombreux entretiens pour obtenir la rentrée en grâce d'un coupable contre lequel s'élevaient de si fortes préventions. Il se ménageait ainsi les moyens d'aller souvent chez M. Després, sans exciter les soupçons de Dalberg. Si vous eussiez vu Rudolphe se rendant rue de l'Abbaye, vous ne l'eussiez pas reconnu. Il se faisait, pour ces occasions, une figure de circonstance. Le raffiné disparaissait complètement. Ses moustaches aiguës perdaient leur férocité. Son œil de faucon s'éteignait. Une tranquillité pleine de bonhomie endormait sa face habituellement agitée de tics nerveux, de bottes plus larges, des gants moins justes, des vêtements d'une ampleur sans prétention, une canne toute simple, lui donnait cet air de respectabilité qui fait dire aux parents « voilà un homme sérieux et capable de parvenir à tout ». Il causait avec M. Després d'économie politique et de toutes sortes de sujets graves, sans pédanterie mais avec connaissance de cause. L'ex-notaire lui trouvait de l'instruction, les idées justes et pratiques. Il s'étonnait qu'un homme si mûr et si raisonnable puisse se plaire dans la société de jeunes fous, à quoi le baron répondait qu'il était sans famille et que, privé des joies du foyer, il lui fallait bien quelques distractions extérieures, ce dont M. Després tombait d'accord. Rudolphe, pour achever de soumettre bien avec M. Després, lui indiqua quelques affaires où celui-ci réalisa des bénéfices considérables. À dater de là, Rudolphe grandit singulièrement dans l'estime de l'ex-notaire. Il ne jurait plus que par lui. Aux objections qu'on pouvait lui faire, que ce personnage si posé, si froid, avait des maîtresses, soupait et jouait, il répondait que n'ayant pas d'engagement, il était libre de faire ce qu'il abusait, pourvu que les convenances fussent respectées. Comme beaucoup d'autres gens vertueux, M. Després avait plus horreur de ce que coûtaient les vices que des vices eux-mêmes. Des fils de famille qui gagneraient toujours au jeu, dont les chevaux obtiendraient tous les prix et à qui leur maîtresse apporterait de l'argent, trouveraient beaucoup de bénignité, même chez les pères les plus rigoristes et les oncles les plus furieux. Telle était à peu près la position de Rudolphe. Il n'y avait dans sa vie aucun désordre apparent, point de dette criarde, point de liaison affichée, pas de duel scandaleux, rien qui eût attiré l'attention. Et depuis quelque temps, on le voyait beaucoup moins dans les coulisses, au club et au café de Paris. Il se rangeait insensiblement, donnant pour prétexte que l'on ne devait pas se permettre certaines folies au-delà de 30 ans. Pour Calixte, à dater de la conversation où elle avait nettement signifié à son père qu'elle croyait Henri innocent et n'aurait jamais d'autre époux, elle semblait ne plus se souvenir de ce qui s'était passé. Elle n'avait pas prononcé le nom de Dalberg une seule fois. Bien que M. Després, qui aimait assez la controverse, lui en eût donné de nombreuses occasions par des allusions plus ou moins transparentes, elle s'était renfermée obstinément dans une réserve silencieuse. Une résolution immuable donnait à sa figure une expression de majesté, de tristesse sereine, dont l'œil le moins intelligent eût été frappé. De jolie, elle était devenue belle. La douleur l'avait ennoblie. Une pâleur rose remplaçait sur ses joues ses vives couleurs de pensionnaire. Ses lèvres vermeilles, autrefois comme la grenade, avaient l'air de deux feuilles de rose tombées sur du marbre. Elle avait maigri et ses mains effilées et veinées d'azur témoignaient d'une souffrance morale contenue par la volonté. Du reste, elle était d'une douceur résignée, d'une soumission mélancolique qui remuait plus le cœur de M. Després et que n'aurait pu le faire des larmes et des plaintes. Il ne pouvait s'empêcher d'en être attendri, bien qu'il appelât à entêtement romanesque de petite fille la fidélité de Calixte, un vaurien tel que Dalberg. Elle n'en parlait jamais parce qu'elle y pensait toujours. Le soir, surtout à l'heure où Dalberg venait autrefois faire sa visite quotidienne, un abattement profond s'emparait de Calixte. Ces moments si heureux alors avaient une amertume double. Elle ne pleurait pas, mais une lueur humidement brillante lustrait le globe d'argent de ses yeux. Une remarque peut-être singulière après ce que nous venons de dire, c'est que Calix ne paraissait pas chercher à éviter la présence de Rudolphe. Quand il arrivait et qu'elle se trouvait au salon, elle ne se retirait pas dans sa chambre comme elle faisait d'ordinaire s'il survenait quelques visites. Elle semblait écouter avec intérêt les entretiens du baron de M. Després. Voyait-elle à Rudolphe un ami de Dalberg? Espérait-elle qu'il parlerait en sa faveur à M. Després et le ferait revenir de ses préventions? Ou bien la conversation brillante de Rudolphe apportait-elle une distraction passagère à ses ennuis? C'est ce que nous ne saurions décider. Lorsqu'elle était là, le baron, abandonnant les sujets un peu lourds qu'il traitait habituellement avec l'ex-notaire, déployait toutes les ressources de son esprit, et il en avait beaucoup, de naturel et d'acquis, et, sans galanterie trop marquée, trouvait toujours moyen d'envoyer à l'adresse de Calixte quelques phrases flatteuses et quelques compliments de bon goût. Quelquefois, lorsque la jeune fille avait la tête tournée et que M. Després développait compendieusement quelques problèmes d'économie rurale, le baron lançait sur elle un regard furtif et plein de flamme qui contrastait étrangement avec la blancheur morte de sa figure. Ce regard n'était pas étudié puisque personne ne devait le voir. Il exprimait donc les véritables sentiments qui agitaient l'âme de Rudolphe. Or, jamais œil d'écolier de 20 ans ne décocha un rayon plus chargé de flammes magnétiques, plus fulgurant de passion que celui du complice d'Amine. Le plus ardent amour y scintillait en traits phosphorescents. Certes, l'idée d'une dot de 500 000 francs n'entrait pour rien dans ce regard désintéressé, comme l'amour vrai. Il s'était fait dans Rudolphe un changement complet depuis sa promenade nocturne avec Henri sur le boulevard de Gand. Les confidences de Dalberg lui avaient révélé tout un monde nouveau, un paradis dont il n'était jamais entré. Dans sa vie consacrée à la recherche du bonheur, il n'avait rencontré que le plaisir, et bien rarement encore. Dalberg était plus fort que lui. Du premier coup, il avait obtenu cette émotion profonde et poignante qui est le rêve de tous les donjouans, et que les empereurs romains poursuivaient de toute l'impuissance fureur de leur fantaisie monstrueuse. Il examina plus attentivement Calixte que jusqu'alors il n'avait considéré que comme représentant un certain nombre de billets de banque, et il se convainquit de cette vérité, que le pli droit de la plus simple robe tombant sur un corps chaste a une force de séduction et une puissance irritante que n'ont pas les plus folles toilettes des courtisanes. Le moindre froissement de cette jupe, qui laissait à peine voir le bout du pied, lui faisait affluer tout le sang au cœur. Ce corsage, recouvert d'une gamme de religieuses, le brûlait, le rendait fou. Lui qui, naguère, tout en fumant son cigare et en parlant de chevaux, caressait de la main, avec un sang-froid parfait, les épaules les plus satinées de Paris. Lui, qui se croyait bronzé, invulnérable, à l'abri désormais de toute surprise, fut vaincu sans même combattre. En général habile, il sentit sa défaite avant d'engager la bataille et reconnut vis-à-vis de lui-même l'inutilité de la lutte. Ce désir d'innocence dont sont prises à une certaine période de la vie les âmes qui connaissent tout, s'était emparé de Rudolphe. Il avait soif de candeur, de pureté. La vertu était le seul raffinement qu'il n'avait pas encore pratiqué. Quoique peu âgé encore, il fut atteint de ce terrible amour qui pousse les vieillards vers les toutes jeunes filles. Comme il n'avait ni foi, ni croyance, ni illusion, ni fraîcheur d'âme, ni beauté de corps, ni richesse de cœur, il voulut posséder tout cela dans Calixte. Il n'oubliait qu'une chose, c'est l'amour de la jeune fille pour Dalberg, amour qu'il se flattait de détruire peu à peu, se fiant à son adresse. Il se trompait en cela. Cette faute est celle de tous les gens habiles, trop portés à mépriser des adversaires naïfs, comme si la gaucherie n'était pas quelquefois la suprême rouerie, surtout en amour. L'homme le plus fin de la terre, le plus expert en intrigue, sera battu par un adolescent bête, mais aimé. Rudolf, entré dans la maison de M. Després en coureur de notes, n'y songeait plus. Calix, si elle était ruinée de fond en comble, il ne s'en serait pas inquiété un instant. Et pendant tout cela, que faisait Amine? Elle avait prudemment jugé qu'il fallait laisser à la première fureur de Dalberg le temps de s'abattre. Elle s'était tenue à l'écart, mais elle n'avait pas abandonné ses projets. Quand elle pensa que Dalberg s'était suffisamment désespéré, elle résolut de tenter un coup hardi. Un jour, Henri, en rentrant chez lui, aperçut une femme installée dans un fauteuil et lisant des brochures avec le plus beau sang-froid du monde. Il ne la reconnut pas d'abord, car la voilette de son chapeau baignait d'ombre le haut de sa figure, et son manteau était caché par le cahier ouvert qu'elle tenait à la main. Mais la petitesse du brodequin, la fraîcheur du gant et le souple abandon de la taille annonçaient une jeune et jolie femme. Une pensée folle traversa un instant la tête de Dalberg. Il s'imagina que sa bien-aimée Calixte, ayant enfin reçu une des épîtres passionnées où il lui proposait de l'enlever et de fuir dans un autre hémisphère les rigueurs d'un père barbare, s'était décidée à le rejoindre. Il allait s'écrier « Vous ici, Calixte !» lorsque l'inconnu, relevant son voile et jetant de côté le journal qui lui servait de masque, découvrit aux yeux stupéfaits de Dalberg un minois chiffonné qui, pour ne pas valoir la beauté virginale de Calixte, avait cependant bien son prix. « Amine chez moi ! » s'écria-t-il en reculant de trois pas, atterré de tant d'audace. « Eh bien oui, qu'y a-t-il là de si étonnant ? » répondit-elle en s'appuyant sur le dos du fauteuil avec un geste plein de résolution. « Mais après le tour abominable que vous m'avez joué ?»« Vous n'êtes pas mal ici, » reprit Amine. « Oh, tiens, voilà un diaz ravissant. Voulez-vous le changer contre mon de la croix ? Un amour contre un tigre ?» Il faut que vous comptiez beaucoup sur votre sexe. » Certainement, j'y compte, dit Amine en se débarrassant de son châle et en jetant sur un canapé son chapeau, fraîche chef-d'œuvre sorti le matin des mains faites de Madame Baudran, avec autant de négligence qu'une faneuse lance son chapeau de paille sur une meule de foin. Et elle s'avança vers Dalberg, forte de toutes les pièces de son armure qu'elle avait déposées. Un rayon de soleil, filtrant à travers les rideaux, l'illuminait de la tête aux pieds et faisait pétiller 1000 fils d'or dans ses cheveux d'un châtain opulent. C'eût été, pour une femme moins fraîche et moins jeune qu'Amine, un secours perfide. Mais elle avait une tête à défier toute clarté. À la vue de cette jolie créature, toute dorée de lumière, ondulant comme une vipère sur le bout de sa queue et le provoquant de son insolente beauté, Dalberg s'arrêta incertain et déjà fasciné. Son indignation contre la noire action d'Amine n'était pas moins vive, mais malgré lui, il cédait à l'ascendant de ce charme fatal dont les cœurs les plus froids n'étaient pas à l'abri. « Commencez donc votre harangue, » dit Amine en lui frappant les lèvres du bout de son gant qu'elle avait retiré. « Allons, faut-il que je vous souffle ?» Amine, la perverse, la scélérate, l'infâme, la femme sans cœur. Ce doit être dans cette veine probablement que vous auriez choisi les épithètes de ma litanie. Mais vous avez fait le malheur de ma vie. Ceci n'est pas prouvé. Peut-être me remercierez-vous plus tard. Brisez le cœur d'une pauvre enfant. Maud se consolera, si ce n'est déjà fait. Et pourquoi avez-vous envoyé ce portrait? Et pourquoi n'êtes-vous pas venu le reprendre? Mais Charles, le pouvais-je? Ingrat! Je vous inspirais donc une horreur bien insurmontable. Mais en toute autre circonstance, votre billet m'aurait rendu le plus heureux des hommes. Bien jugé de ma colère, je me suis cru dédaigné, méprisé. J'ai pensé que vous me trouviez laide, alors j'ai douté de mon pouvoir. C'était ma première défaite. Mais l'amour le plus violent, le plus pur, occupait mon cœur. Mais c'est ce qui me rendait si malheureuse. Oh, que j'enviais cet amour qui vous était inspiré par une autre. Comme j'étais misérablement jalouse de cette Calixte, comme j'aurais voulu pouvoir l'étudier sans qu'elle me vît et lui prendre ce qui vous charme en elle. Oh, que j'ai regretté la gracieuse gaucherie de l'innocence. Si vous saviez quels efforts j'ai faits pour donner à mes bandeaux cette ondulation virginale, à mes regards cette lueur timide que j'ai remarquée dans le médaillon, que de robes blanches j'ai essayé avec des ceintures toutes unies pour avoir l'air moi aussi d'une pensionnaire. Amine parlait-elle sérieusement, voulait-elle se jouer de la crédulité de Dalberg? C'eût été une question difficile à résoudre. Sa voix, son regard, son geste, tout avait pourtant l'accent de la vérité. La jalousie qui m'a fait envoyer le portrait de Calixte à M. Després m'a bien mal inspiré, puisqu'elle me vaut votre haine, reprit Amine avec un soupir savamment modulé. Si je vous avais cru amoureux à ce point, je n'aurais pas essayé de surprendre un cœur trop bien gardé, hélas. Nous devons avouer que Dalberg, à qui depuis 6 semaines Calix n'avait donné aucun signe de vie, et qui ne s'était pas même laissé apercevoir derrière son rideau, ne trouvait pas en cet instant Amine si monstrueusement perfide qu'elle lui avait semblé d'abord. Tant l'homme pardonne aisément les actions les plus coupables quand elle flatte son amour-propre par quelque côté. Ce qui est fait, fait, et vous devez avoir perdu tout espoir de rentrer dans les bonnes grâces de Calixte et de M. Després. D'ailleurs, Calixte ne vous aimait pas. A-t-elle fait le moindre effort pour vous revoir? Vous a-t-elle écrit un mot seulement? A-t-elle eu la moindre pitié de votre douleur? Cette petite fille dévote des rancunes diaboliques. Jamais elle ne vous pardonnera. Déjà, Dalberg s'était dit plusieurs fois tout bas ce qu'Amine lui disait tout haut. Calixte lui paraissait même, en faisant la part de sa colère légitime, obéir bien ponctuellement aux injonctions paternelles. Et combien de temps continuerez-vous à promener par la ville l'élégie de votre figure et de votre personne? Votre moustache est mal taillée, vos cheveux ne frisent pas, vous avez un gilet de 2 mois. Signe de prostration morale, oui. Oui, vous abusez du droit qu'ont les amoureux expulsés d'être mal en point dans leurs habits. Mais d'ici à 8 jours, vous serez ridicule, je vous en avertis. Dalberg jeta un coup d'œil sur une glace qui se trouvait près de là et s'aperçut en effet de plusieurs infractions à l'élégance dans sa toilette. Calixte prend mieux son parti que vous. Elle est déjà toute consolée. Oh, c'est impossible ! S'écria Dalberg. Avez-vous l'amour-propre naïf ? Et l'on peut même déjà prévoir que sera votre successeur auprès de cette chaste et vindicative personne. Monsieur Després n'a pas envie, comme vous le pensez bien, de faire coiffer Sainte-Catherine et Mademoiselle Calixte. Vous n'êtes pas le seul genre de la création. Puisqu'on vous oublie, oubliez. Vous allez encore dire que je suis méchante, mais si vous vouliez venir avec moi à l'opéra, Outre le ballet nouveau, je vous ferai voir un spectacle qui vous guérirait de votre passion malheureuse et vous délierait des serments de fidélité que vous avez pu faire jadis ou récemment à votre belle. Mais que voulez-vous dire? Vous m'alarmez? Et quoi? Ah, vous n'avez pas plus de confiance que cela dans l'amour d'une jeune fille honnête, élevée au couvent, avec laquelle vous échangez des médaillons et des boucles de cheveux? Vous tremblez au premier mot qu'on vous dit. Vous reculez devant l'épreuve. Vous n'osez soumettre cet or si pur à la coupelle de peur de le trouver faux. Viendriez-vous avec moi à l'opéra?
Oui, j'irai, répond Alberg.
Allons, alors je vais passer une robe et me mettre quelque chose dans les cheveux. Je viendrai vous prendre tout à l'heure. Soyez prêts.
Au bout d'une heure, Toby monta dire que Mademoiselle Amine était en bas dans la voiture qui attendait. Amine avait une toilette d'une légèreté féerique, un brouillard de tarlatane enveloppait son corps svelte et souple. Une couronne de volubilis aux feuilles diamantées, au calice d'un rose idéal, saignait ses tempes transparentes. Elle était adorable. Et Dalberg lui-même ne comprit plus qu'il eût tenu rigueur à tant de grâce. Oh, les femmes, quand il s'agit d'en désespérer une autre, trouvent des beautés inconnues et qui ne servent que pour ces jours-là. À peine Dalberg s'était-il assis derrière Amine dans la baignoire, qu'elle occupait à l'année, que la porte d'une loge de première galerie située en face s'ouvrit avec fracas. Dalberg vit entrer deux hommes et une jeune fille vêtue de blanc avec un gros bouquet de violettes au corsage et des fleurs pareilles dans les cheveux. Le plus âgé des hommes était Monsieur Després, l'autre Rudolf, et la jeune fille, Calixte.